Donc on enchaîne rapidement sur toujours sur Nietzsche. Nietzsche, comme il faut dire en toute rigueur germanique, revenons à Nietzsche, donc Friedrich, dont le prénom a été souvent francisé, c'est moins grave qu'anglicisé. Assez communément, on dit Frédéric. Pour des raisons qui s'expliquent, c'est que on ne mesure pas l'importance, c'est juste un petit ajout, parce qu'on va revenir à la biographie qu'on a entamée l'autre fois, puis après au texte surtout. C'est juste un petit ajout introductif que je fais par rapport à ce que j'ai dit en décembre. On ne mesure peut-être pas suffisamment l'importance qu'a eu Nietzsche dans la conscience collective. D'ailleurs, bien au-delà des gens qui s'intéressent à la philosophie, quoi. Nietzsche s'est diffusé sa pensée dans une espèce de vulgate qui est problématique d'ailleurs parce qu'elle opacifie Nietzsche, la pensée réelle de Nietzsche aujourd'hui. Mais au-delà de la vulgate, c'est-à-dire la vulgate, c'est la diffusion comme opinion commune de catégories de pensée de Nietzsche, même si on n'a pas toujours conscience que ce que l'on dit, c'est à partir de Nietzsche, d'accord? C'est ça la vulgate, c'est l'opinion commune. Mais par-delà cette opinion commune, ce qu'il faut ajouter, c'est que Nietzsche a une influence très grande, particulièrement sur les intellectuels et philosophes français de tout le XXe siècle. Je citerai deux, trois noms au passage, mais parmi les plus importants, je citerai en particulier Georges Bataille. Georges Bataille, ce philosophe, écrivain, sociologue, qui a eu cette grande importance entre les deux guerres et après la Seconde Guerre mondiale, qui était un touche-à-tout, Bataille, qui écrivait aussi bien des romans, enfin ce qu'il appelait des romans, que des essais sur l'érotisme et l'art, que des essais sur l'économie. Il fait une critique de l'économie tout à fait remarquable, et c'est un livre que je ne saurais que trop vous recommander, qui s'appelle, qui est publié, il y a deux textes dans ce recueil, qui s'appelle la part maudite. La part maudite. Ne développe pas, parce que autrement on va s'embarquer ailleurs. Influence considérable sur quelqu'un comme donc Georges Bataille. Et puis après, plus proche de nous, dans les années 70, on va dire, extrême influence sur des gens comme Jacques Derrida, d'une certaine manière. Bon, je ne commande pas parce que c'est pareil, mais c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, un des grands philosophes des années 70, mais également et encore plus Deleuze. Deleuze et Guattari. Mais il y en a plein qui ont écrit sur Nietzsche. Gilles Deleuze, c'est un penseur qui marque encore aujourd'hui beaucoup d'esprit. Y compris grâce à son tandem avec Guattari, Félix Guattari, qui était psychiatre, y compris par rapport à la conception de la psychiatrie en France, qu'ils ont contribué à révolutionner très largement, quoi. Et la pensée de Nietzsche, dans les deux cas, a joué un rôle important, je dirais. Important, voilà. Bon, je pourrais en citer plein d'autres, mais je pense à des gens aussi comme un philosophe moins connu de la même période, Jean-François Lyotard, par exemple, qui a été largement influencé pour Nietzsche. Lyotard, c'est L-Y, hein. Ne confondez pas avec l'acteur et le frère politique, hein. Donc, cette importance de Nietzsche fait qu'on est obligé de vraiment s'arrêter minutieusement sur sa pensée, d'autant plus, comme je le disais, qu'elle est très opacifiée pour deux raisons. Une raison externe à Nietzsche, qui est ce que je disais avant, que c'est devenu une vulgate contemporaine. Par exemple, je parlais des années 70, mais tout ce qui a été la mouvance, une certaine mouvance libertaire, on va dire, issue de 68, de mai 68, largement a été imprégné de Nietzsche, notamment autour de la pensée du désir. Je dirais aussi que Nietzsche a influencé également pas mal, vous savez qu'il y a une porosité dans ces deux domaines, entre ces deux domaines, a influencé des non-philosophes, que sont les psychanalystes, et en particulier les psychanalystes français. Donc, opacification de la pensée de Nietzsche du fait de cette diffusion et cette vulgate, c'est toujours la rançon de la gloire, hein, c'est qu'après, une pensée trop diffusée devient réduite, déformée, il y a des clichés qui circulent et qui sont souvent éloignés de la pensée originelle, etc. Et puis, opacité de la pensée de Nietzsche pour des raisons internes à Nietzsche. C'est que Nietzsche, d'une part, a une pensée qui s'élabore de façon très fragmentaire, avec des textes dont on peut dire qu'ils relèvent, alors c'est aussi un atout, plus de la littérature que de la philosophie au sens strict. Je pense à Zarathoustra, c'est autant de la littérature que de la philosophie telle que c'est construit. Et puis aussi parce que, du coup, cette façon de penser de non systématique fait qu'il laisse au gré du vent et des circonstances, de ses humeurs, de ses états d'âme, de sa folie, il laisse des incohérences dans sa pensée et des contradictions qu'il faut pouvoir surmonter pour y voir clair à certains moments et pas réduire sa pensée à telle tendance sans la contrarier par une autre tendance de sa pensée. Donc c'est toute la complexité qui oblige donc à se pencher très précisément sur lui. Alors, du point de vue de notre question générale, ce qui est important pour nous, donc sur la question de la morale et de vivre conformément à ses idées, la cohérence entre penser et agir. Donc, de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est deux choses qu'on va creuser. C'est que d'une part, on ne peut pas contester que Nietzsche a tenté de vivre conformément à ses idées très largement. C'est-à-dire qu'il a eu une vie sans concession, y compris en quittant l'université, je vais y venir après. Après, on peut contredire ce que je viens de dire en disant que ce n'est pas un effet de cohérence de pensée, c'est un effet de sa maladie que l'on peut qualifier, pour le dire vite, de folie, entre guillemets, ce qui veut tout et rien dire, surtout quand on a lu Deleuze et Guattari. Disons, par contre, une maladie mentale réelle, quoi. On va y revenir sur sa maladie qui a fait l'objet d'interprétations et de fantasmes redoutables, mais incontestablement, Nietzsche est quelqu'un qui est malade très tôt. On peut peut-être établir un héritage génétique par rapport à son père, Pasteur, lequel père a été aussi atteint de maux de tête très graves et est mort très prématurément, c'est-à-dire qu'en laissant Nietzsche et son frère et sa sœur, en les laissant orphelins de père, et le père de Nietzsche est mort pour des raisons du fait vraiment d'une maladie du cerveau, quoi. Il avait des migraines épouvantables, des périodes de cécité, et qu'on retrouve chez Nietzsche, c'est Friedrich, quoi. Bon, bref, je reviendrai un petit peu après, parce que c'est pas sans importance, sur les interprétations concernant sa maladie. Mais, parce que c'est un peu plus que l'anecdote, je rentrerai pas dans l'anecdote, ce qui nous prendrait du temps et qui est relativement peu intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire que Nietzsche, c'est compliqué. Mais qu'il a une influence déterminante. J'ajouterais ce que j'ai dit l'autre fois, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois, que pour me positionner par rapport à Nietzsche et sa question de la morale, j'ajouterais ceci, qui est que Nietzsche m'oblige à penser complètement contre moi, hein, c'est clair. Je pense avec Nietzsche contre Nietzsche. J'élaborerai une approche à la fois objectif de sa pensée, mais aussi critique de sa pensée. C'est-à-dire que je pense que sa pensée revêt des impasses. Alors on pourrait me dire, c'est humain trop humain, les impasses, en citant Nietzsche, justement. Et c'est vrai que les impasses de pensée, c'est humain trop humain. Mais dans la pensée interne à Nietzsche, il y a vraiment des impasses, ce qu'en philosophe, on appelle des apories. Apories, vous savez, c'est le mot grec francisé, qui est « a », le « a » privatif en grec, absence de, et « poris », c'est « poros », P-O-R-O-S, qui est un beau mot, qui est un mot très concret au départ, qui est le chenal qui permet la sortie ou l'entrée dans un port. dans un port, vous avez cet endroit étroit avec des digues, et c'est le chenal, le passage. Et poros, au départ, c'est ça. Donc, une aporie, aporos, c'est l'absence de passage, de voie de passage. Donc, c'est une impasse. Et ce mot est utilisé en philosophie dans un sens abstrait, qui est une impasse dans la pensée, quoi. C'est-à-dire, on bute sur une impossibilité. Nietzsche nous intéresse aussi du point de vue de notre question sur la morale, parce que il a beaucoup réfléchi, je dirais que c'est son fil conducteur dominant, sur la question morale. Et il l'a réfléchi à la fois en termes scientifiques, en termes de philologue. Je rappelle que la philologie, c'est une discipline proche de la philosophie, mais très différente, qui est l'étude et l'établissement à partir de manuscrits, souvent multiples ou fragmentaires, et qui sont des copies, des textes anciens, grecs et romains essentiellement. Voilà ce qu'est la philologie. Et Nietzsche s'est retrouvé, malgré lui, philologue. Il s'avère qu'il détestait cette discipline, au fond. Ce qui n'est pas sans poser problème, y compris par rapport à sa généalogie de la morale, qui est donc un livre majeur, parce que les philologues purs et durs, scientistes, diraient, mais c'est autant un travail, c'est plus un travail de philosophe qu'un travail de philologue, quoi. Ce qui est vrai. Bon, c'est secondaire. Mais ceci pour dire que Nietzsche, d'un bout à l'autre, s'intéresse beaucoup à la question morale, avec un esprit critique, c'est-à-dire qu'on va aborder, c'est-à-dire que Nietzsche propose une inversion des valeurs, une inversion des systèmes de morale qui sont dominants à son époque, c'est-à-dire la morale issue du christianisme, auquel il s'en prend violemment. Mais c'est ambigu, c'est aussi, on pourrait situer d'un point de vue analytique, c'est son rapport au père qui est en cause. Il ne faut pas oublier qu'il est issu d'un milieu de pasteur luthérien, c'est un milieu complètement luthérien. Comme Freud a baigné, bien qu'il soit juif, dans un milieu catholique intégriste, on dirait aujourd'hui intégriste, qui est la bourgeoisie viennoise de l'époque de Freud. Voilà. Donc ça, c'est pas sans laisser des traces dans la pensée, quoi. Donc, critique violente de la morale issue du christianisme, et en même temps, fascination, par exemple, pour la figure de Jésus, hein. Dans ces moments de folie, Nietzsche prend pour Jésus. Et on peut faire le parallèle entre Zarathoustra et Jésus par plein d'aspects. Et d'autre part, critique de la morale issue de la métaphysique, c'est-à-dire de la philosophie grecque antique telle qu'elle a été pensée avec des gens comme Platon et surtout Aristote qui est l'inventeur du mot métaphysique. Donc je rappelle chez Aristote que ça ne veut pas du tout dire ce que le mot signifie par la suite. Métaphysique, ça, chez Aristote, c'est simplement les livres, les volumes de pensée qui viennent après la physique. Chez Aristote, il y a tout un système magistral d'études de la physique. Physis en grec, ça veut dire la nature. Donc l'étude, alors c'est devenu après la physique comme science physique, mais c'est l'approche, la connaissance du monde, de la nature, pour le dire vite. Voilà, ça c'est la physique. Et Aristote s'intéresse ensuite à ce qui est au-delà et caché d'une certaine manière du monde sensible, du monde naturel qu'on peut appréhender par les sens. Et c'est ce qu'il va appeler, mais dans un sens concret, ce qui vient après la physique, c'est métaphysique. Méta étant une préposition grecque qui veut dire par-delà, au-delà, après, ça se décline comme ça, le sens français de méta. Voilà. Ça a donné lieu à plein de mots en français qu'on peut comprendre à partir du sens premier de méta en grec. Voilà. Donc, simplement, je retiendrai pour bien comprendre la critique chez Nietzsche de la morale issue de la métaphysique. La métaphysique, d'une certaine manière, c'est un antimatérialisme. conséquent. Le matérialisme considère qu'en réalité, il n'y a qu'un monde, c'est le monde sensible, dont on ne peut avoir une connaissance que par les sens. La vision, le toucher, l'odorat, la vue, c'est le rapport sensible par les sens au monde qui permet une certaine connaissance. Et il n'y a rien d'autre que ça. Donc ça, c'est la pensée fondamentalement matérialiste. Oui et non. Oui, on pourrait dire oui d'un côté, et en fait non de l'autre. Non de l'autre. Alors, très très rapidement, les scientifiques sont amenés à élaborer des hypothèses pour des choses qu'ils n'ont pas vues, dont ils n'ont aucune connaissance sensible. À partir du moment où la physique, pour prendre la physique, fait appel aux mathématiques, les mathématiques, c'est une pure abstraction métaphysique. Ce qui fait que les métaphysiciens grecs, par exemple Platon, considéraient la mathématique comme au sommet de la pensée. Et ils ne considéraient comme seul art digne d'intérêt la musique. Et pourquoi ils s'intéressaient à la musique? Parce qu'ils considéraient, à juste titre, que la musique est un art mathématique. Or, je prends un exemple concret pour illustrer ce que je dis. Les astrophysiciens ont découvert la dernière planète du système solaire, qui est Pluton, alors qu'ils ne l'avaient pas observé. Ils ne l'avaient pas vu du tout. C'était un monde caché, mais qu'ils avaient établi l'existence possible par une construction mathématique. Donc c'est dire que la science, c'est à la fois expérimentale, ça part de l'observation et de procédures d'observation très précises, mais la science, à partir du moment où elle a recours à la mathématique, c'est aussi une exploration de ce qui ne se voit pas, de ce qui ne se donne pas au sens dans un premier temps. Il se trouve qu'après, grâce à l'amélioration des instruments d'observation, on a fini par voir la planète en question, mais que dans un premier temps, on en avait établi l'existence. Mais regardez les trous noirs, etc., c'est des choses que d'une certaine manière, on n'observe pas vraiment. C'est issu purement de cette théorie de l'antimatière des trous noirs, c'est issu de calculs mathématiques sur les masses de l'univers, etc., qu'il y a des décalages entre ce qu'on peut déduire de la masse observable et de la masse qu'on déduit par les calculs, et ainsi de suite. Bref, simplement pour revenir à la métaphysique, contrairement au matérialisme, la métaphysique est une pensée fondatrice de la philosophie occidentale qui considère qu'il y a deux mondes. Il y a le monde sensible, le monde matériel en fait, au sens matériel qu'il est sensible, appréhendable par les sens. Mais il y a aussi un autre monde que certains appellent un arrière-monde. Et vous savez, par exemple, il y a une vieille revue qui s'appelle la Revue des Deux Mondes. C'est ça que ça veut dire, fondamentalement. La Revue des Deux Mondes, ça veut dire qu'elle s'intéresse à la fois aux sciences, à l'appréhension matérialiste du monde, mais aussi à l'appréhension philosophique, métaphysique du monde. Voilà. Et donc, le second monde, ou le monde caché, qui n'est pas appréhendable par les sens, ben, c'est ce que Platon et les platoniciens, mais aussi Aristote, a appelé le monde des idées. Mais le monde des idées, il faut se rappeler, pour pas faire d'erreur, que le monde des idées est un monde qui existe. C'est pas un pur fantasme, une pure fantaisie. Pour Platon, les idées font partie de l'être du monde. Les idées existent, pour le dire, voilà. Et il y a en plus une permanence chez Platon. Vous savez, je prends souvent un exemple, hein, je vous le rappelle parce que c'est des choses fondamentales à comprendre autrement. Platon prend un exemple que je simplifie, le potier. Le potier, il a une masse informe de glaise. C'est ce que les Grecs appellent le chaos, le chaos. C'est ce que Nietzsche appelle le chaos. Chez Nietzsche, on y reviendra éventuellement, le chaos, c'est une donnée fondamentale du monde. Hein. C'est-à-dire que pour Nietzsche, le monde est chaos. C'est-à-dire qu'il nie le fait que le monde puisse être régi par un ordre. Le logos, la raison. Donc, au départ, cette glaise, c'est une masse à forme chaotique. Le potier va donner une forme. Il va faire un pot, une poterie, avec cette glaise qu'il va façonner de ses mains, etc. Ce qu'explique Platon de façon très éclairante, c'est que la forme que le potier va donner à la matière informe et qui va faire un pot, cette forme préexistait comme idée dans la tête du potier. Donc voilà, la forme du pot que le potier par ses mains, informé par son esprit, va donner au morceau informe de glaise, préexistait dans la tête. Donc l'idée préexiste à l'objet matériel qui est cette poterie. Et du coup, on comprend pourquoi en grec, le mot qu'a donné idée en français, c'est eidos, E-I-D-O-S, epsilon, voilà, mais E-I-D-O-S. Eidos, en grec, qui donne idée, ça veut dire au départ forme, une forme, voilà. Et l'idée, c'est jamais qu'une mise en forme. Enfin, oui, qui existe, c'est l'arrière-monde, c'est l'arrière-monde qui est derrière le monde sensible, le monde tangible. Vous voyez ce qu'est une approche métaphysique, hein. C'est clair dans vos esprits, hein. Nietzsche conteste ça. Il remet en cause le fait qu'il y ait deux mondes. Le monde sensible et le monde, l'arrière-monde. Cela dit, et c'est là que c'est compliqué chez Nietzsche, c'est pas pour autant qu'il soit matérialiste, au contraire, il récuse tous les courants matérialistes de son époque. Il récuse ça très tôt, dès qu'il est étudiant. Les étudiants de tout temps, ça a été un milieu effervescent dans les idées. Il n'y a qu'aujourd'hui où c'est peut-être, hélas, quasi plus le cas, et ce qui est inquiétant, ça veut dire la dégradation de notre monde, d'ailleurs. Mais tout temps, et du temps de Nietzsche, c'est-à-dire au XIXe siècle, en Allemagne, mais aussi en France, l'université, c'est un lieu d'ébullition intellectuelle. Et du temps de Nietzsche, quand il était étudiant, à Bonn, à Leipzig, voilà, donc la question de la morale et de la critique radicale de la morale, aussi bien issue du christianisme qu'issue de la métaphysique, qu'il met en cause, et Nietzsche récuse être un métaphysicien, faire œuvre de métaphysique. Alors là, on pourra l'aborder éventuellement, bien que ça soit pas sur notre fil conducteur, donc on verra. Nietzsche sera là dans une impasse, parce qu'en fait, la pensée de Nietzsche, au bout du compte, est métaphysique. Alors qu'il pense ne pas faire une œuvre métaphysique. Bon, je ne sais pas si on reviendra là-dessus, parce que c'est pas tout à fait la même question que la morale, mais je pointe ça au passage. Alors, oui, j'ai pas fini là-dessus, pardon. À son époque, les courants matérialistes sont, chez les étudiants et dans la société, sont hegeliano-marxistes. C'est-à-dire que c'est une période, Hegel, puis Marx, vivent en Allemagne, puis après en Angleterre, mais un peu avant Nietzsche. Donc c'est plutôt, pour schématiser, plutôt le début, la première moitié du 19e siècle. Alors que, pour schématiser toujours, Nietzsche, ça va être la seconde moitié du 19e. Rappelez-vous, Nietzsche, c'est facile à retenir, meurt en 1900. Point. Voilà. Donc, Marx, et surtout Hegel avant Marx, c'est un peu avant. Donc, il y a une influence optimale de la pensée hegeliano-marxiste. Alors, pourquoi je dis hegeliano-marxiste? Parce que il va y avoir une fusion. Marx s'inspire de la pensée de Hegel, et notamment de sa philosophie de l'histoire, mais donc ça va être le socle de la pensée de Marx. Mais Marx construit sa propre philosophie par une critique d'Hegel, vous savez. Il dit « Je remets les choses dans l'autre sens ». Hegel a pensé à l'inverse. Alors, en quoi ? Pour Hegel, la philosophie de l'histoire, c'est avant tout, pour aller très vite, hein, la philosophie des idées. C'est les idées qui gouvernent le monde. Donc, Hegel montre comment, et c'est sa dialectique, vous savez, thèse, antithèse, voilà. C'est une chose a toujours son négatif, voilà. Et Hegel pense l'histoire à partir de ce principe, qui est ce qu'on appelle la dialectique hegelienne, d'accord ? Vous comprenez ? Et Marx reprend Hegel, mais en disant, mais moi je vais remettre les choses en place, sa dialectique est juste, sa philosophie de l'histoire est juste, sauf sur un point. Marx dit, c'est pas les idées qui sont premières, les idées c'est les superstructures. Ce qui est premier, c'est les fondements, c'est les infrastructures, et ce qui est premier, c'est le matériel, c'est-à-dire le travail, les rapports de travail, c'est-à-dire les rapports de production. Et les rapports de production entre les détenteurs de capital et le prolétariat. D'accord ? Donc ça, il fonde une pensée matérialiste. À partir de là, vous comprenez en quoi c'est matérialiste, sans rentrer dans le détail de Marx, qui va avoir le vent en poupe, quoi, à l'époque. Et avec l'expression politique qui est que majoritairement les étudiants de l'époque sont socialistes ou communistes, en gros c'est la même chose à l'époque, hein. Voilà. Et donc Nietzsche baigne dans ce milieu-là, et il va s'en détacher, c'est-à-dire qu'en gros, il reste complètement sceptique par rapport à cela, et complètement sceptique par rapport à une perspective de révolution. Même si, c'est aussi ses contradictions, même si Nietzsche vouera une sorte de culte, comme beaucoup d'Allemands, comme Hegel, comme Beethoven, pour Napoléon. Il adore Napoléon. Et même dans la dernière partie de sa vie, dans les moments de folie, Nietzsche se prendra pour Napoléon. C'est vrai. Alors, ceux qui mettent ça comme objection, c'est généralement ceux qui sont gênés par le fait que tous ces intellectuels ou artistes allemands qu'on admire aient pu admirer Napoléon. Ah, oui, non, mais c'est le romantisme fondamentalement. Oui, Napoléon est tapé par le romantisme, oui, c'est très clairement. Ben, pensez à Chateaubriand, je suis désolé, Chateaubriand, qui est l'exemple même du romantisme. Alors, Chateaubriand, c'est pas un Allemand, mais peu importe, vous savez qu'à l'époque, il n'y a pas des frontières, contrairement à ce qu'on croit, marquées, et en particulier, pas de frontières du point de vue des idées. Et en particulier, l'influence de ce qui se passe en France est déterminante en Allemagne. Chateaubriand, qui est l'expression même du romantisme en littérature, voue un culte, et même après coup, à Napoléon. Il faut pas oublier ceci qui rend les choses compliquées. C'est que Napoléon, les guerres napoléoniennes, c'était des guerres qui étaient contre les monarchies, qui voulaient restaurer le régime monarchique, y compris en France. C'est ça, les guerres napoléoniennes. Donc c'est des guerres qui sont portées par l'idéal de la Révolution française. C'est ça qui est compliqué. Moi, je vois la rupture, moi, au moment du sacre, qu'au moment de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que Napoléon, mais donc c'est plus tard, c'est bien après, Napoléon se plante vraiment, là, il dérape, parce qu'il s'entête en Espagne, et c'est un massacre intégral, là c'est... Mais malgré sa guerre en direction de la Prusse et de l'Autriche-Hongrie, il reste admiré par beaucoup d'Autrichiens et d'Allemands. Tout simplement parce que il y avait ce mouvement des progressistes qui en avait marre de la monarchie dans ces pays-là. Qu'on avait marre de la monarchie, des Guillaume, des François-Joseph, et même de Sissi, quoi. Voilà, donc, en quoi Nietzsche s'éloigne de ce bain avec un scepticisme grand, c'est-à-dire qu'il considère quand même, il ne croit pas à l'idée d'une révolution politique et sociale, quoi. C'est-à-dire que, pour le dire en termes plus contemporains, et ça c'est pas inintéressant à retenir, Nietzsche pense que si il doit y avoir révolution comme nécessité, elle ne doit être qu'intérieure. Ça, oui, tout à fait. Alors, je reviens. Non, il s'intéressera. C'est compliqué. Là aussi, la réponse n'est pas simple. Dans un premier mouvement, je dirais qu'il ne s'intéresse pas trop à la politique et il ne fait pas de philosophie politique. Donc, il s'intéresse d'abord à la révolution intérieure. Mais, et le reste lui importe peu, ou le reste il ne l'a pas pensé. Alors est-ce qu'il l'aurait pensé plus tard, s'il avait vécu plus longtemps, s'il n'avait pas été complètement dans l'incapacité de continuer à penser les 10 dernières années de sa vie à cause de sa maladie, hein. Les 10 dernières années de la vie de Nietzsche, il est légume en clair, quoi. Est-ce qu'il aurait été au-delà et qu'il serait mis à faire une philosophie politique comme tout philosophe de ce nom qui essaie de penser tous les aspects du monde et de l'homme et qui tous est amené à aborder la question du collectif? Est-ce que Nietzsche serait allé jusqu'à là? On ne peut pas le dire véritablement. De la psychanalyse, oui, il a eu un contact évident avec la psychanalyse. Mais même Freud s'est intéressé à la dimension collective. Et il a même écrit des livres qui sont des livres d'anthropologie ou, je dirais pas politique au sens strict, mais Totem et Tabou ou Moïse et les monothéismes, des livres qui ne sont pas, qui n'ont pas pour objet l'individu, qui sont des livres qui s'intéressent à les dimensions collectives. Bon. Malaise dans la civilisation, oui, tout à fait. Voilà, donc, je dirais, pour terminer de répondre à ta question, que Nietzsche, en réalité, s'intéresse d'abord à l'idée que la révolution doit être intérieure et propre à chaque individu, mais en même temps, il faut ajouter qu'il a des considérations politiques. Il y a des considérations qui ne sont pas développées, mais qui sont incontestablement politiques chez Nietzsche. Alors, pour que ça soit clair, quand je dis ça, je ne fais pas du tout allusion à l'héritage nazi d'une certaine pensée de Nietzsche. Hein. Ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. On y viendra. Voilà. Donc, je reprends le fil de la biographie. Donc, on en était resté à ses études au collège de Pforta, qui était l'élite au niveau du lycée à l'époque, dont il avait obtenu une place et une bourse grâce aux évêques protecteurs et aux politiques liées aux les évêques protecteurs de la famille de Nietzsche. Voilà. Ensuite, donc, il rentre à l'université en 1864 à Bonn. Fait des études à Bonn. Il est conduit à étudier la philologie notamment, mais ça ne l'intéresse pas plus que ça, comme je le disais tout à l'heure. Je dirais par ailleurs qu'il est très mal à l'aise dans le milieu étudiant, parce qu'au fond, Nietzsche est dès l'époque un solitaire. Un solitaire et la vie étudiante, cette vie collective de fêtes, etc., vous pouvez imaginer, c'est pas forcément éloigné de ce qu'on peut connaître aujourd'hui ou hier, quoi, la vie étudiante. Il se trouve que Nietzsche s'en éloigne et va plutôt entretenir des rapports privilégiés qui vont jouer un rôle important dans sa vie avec des professeurs d'université. En particulier, alors je le cite, mais en même temps c'est anecdotique, un professeur qui va jouer un rôle important, c'est un grand spécialiste du latin et de la pensée romaine, qui s'appelle Friedrich William Ritschle, R-I-T-S-H-L, qui a joué un rôle déterminant chez Nietzsche. Alors, ce qui est intéressant quand même, parce que les biographes ont trouvé beaucoup de documents et donc une correspondance de Nietzsche abondante qui est claire, et notamment les lettres qu'il a faites pendant une longue période de sa vie avant de rompre avec à sa sœur. Et on a un éclairage pourquoi il fait de la philologie malgré lui, pourquoi ça ne l'intéresse pas plus que ça. C'est qu'il dit ceci, j'ai relevé la citation, donc c'est une lettre à sa sœur. « Pour un véritable chercheur, le résultat de la recherche n'est-il pas indifférent? Dans notre effort, que cherchons-nous? Le repos, le bonheur, non, rien que la vérité, toute effrayante et mauvaise qu'elle puisse être. » Voilà. Donc, ce qu'on comprend par là, c'est deux choses, qui sont des éclairages intéressants sur la pensée de Nietzsche. La première chose, c'est que dans la philologie, ce qui l'agace, c'est son scientisme, c'est la science pour la science. De ce point de vue-là, on pourrait dire que, là je fais exprès parce que c'est faux, mais De Gaulle aurait été nietzschéen quand il dit « ce qu'on demande aux chercheurs, c'est de trouver, c'est pas de chercher ». Et chez Nietzsche, il y a ça. Et il y a ça pourquoi ? Ben, il le dit là dans ce fragment de lettre à sa sœur qu'il explique. Il est obsédé, contrairement à ce qu'on croit, par rapport à la question de la vérité. C'est-à-dire, Nietzsche veut trouver la vérité. Et la question de la vérité va être permanente dans toute la trajectoire de pensée de Nietzsche. Et il va prétendre révéler la vérité au monde. Quoi qu'il en coûte, à juste. Quoi qu'il en coûte. C'est en ce sens-là qu'il est prêt à payer le prix, c'est-à-dire que se faire balancer de l'université, se faire rejeter par son environnement, etc. Parce que pour lui, la vérité, même si elle n'est pas bonne à dire, est plus importante que, comme on dirait aujourd'hui, le consensus social. Alors, là, tu comprends que je ne vais pas répondre à ta question. J'ajouterais simplement que c'est à rapprocher de la pensée de quelqu'un qui n'est pas considéré comme un philosophe du XXe siècle, qui est considéré comme un artiste, un poète, un grand cinéaste, mais au fond, qui a une pensée philosophique, c'est Pasolini, Pier Pietro Pasolini, qui dit dans un de ses films, alors je ne sais plus lequel, toute vérité est révolutionnaire. La vérité est révolutionnaire. C'est que pour Pasolini, ce qui est révolutionnaire et ce qui permet de changer le monde, c'est de tenir sans concession sur la vérité. Ce qui est une pensée qui va se heurter à toutes les tendances marxistes-léninistes de la Révolution au XXe siècle, donc tous les partis communistes, mais toutes les pensées, même dans le gauchisme, hein, dans les années 70, il y avait des combats très rudes là-dessus, hein, mais je ne développe pas. Mais inspiré par Nietzsche, des combats très durs sur ce qui importe, c'est la révolution qui consiste à avoir le pouvoir pour changer la société. Donc ça oblige à avoir une stratégie du rapport de force. Et la stratégie du rapport de force peut emprunter des moyens du moment que ça sert le but qui est premier. Peu importe les moyens. Donc ça, c'est toute la stratégie marxiste-léniniste, si vous voulez, pour l'avènement du communisme. C'est, après coup, ce qu'on peut dire, c'est ce qui a dévoyé profondément l'idéal de révolution et l'idéal du communisme. Et dans les années 70, c'est dire l'importance dans les milieux gauchistes, si vous voulez, comme on dit les gauchistes, bon, ce qui veut tout et rien dire d'ailleurs, parce que gauchiste, c'est une expression qui a été reprise par tout le monde, mais qui était une critique des communistes. Le gauchiste étant, depuis Lénine, la vie infantile du communisme. Bref, je ferme la parenthèse. Et il y avait des débats là-dessus, c'est-à-dire que ceux qui se pensaient même sans le savoir nietzschéen, ou du côté de Pasolini, par exemple, considérait qu'il n'y a pas de concession à faire stratégique par rapport à l'exigence de la vérité. que c'est la vérité et le maintien de la vérité sans concession qui est en soi la révolution. Vous voyez ? Tu comprends bien que je ne peux pas te répondre en un mot, après il faut aborder Nietzsche, mais simplement, c'est simple. On n'échappe pas, et je vais revenir là-dessus, on n'échappe pas à la nécessité de postuler deux propositions antinomiques. Ceci est vrai, ceci est faux. C'est le postulat de base. Et qui a inventé, il y a eu des travaux d'un anthropologue très intéressant qui a montré que c'est l'Occident grec antique qui invente la notion de vérité par rapport à ces deux propositions. Ces deux propositions, ça traverse Socrate d'un bout à l'autre, et sur cette question-là, ça traverse donc Platon, ça traverse Aristote, voilà. Et c'est la spécificité de la pensée occidentale, qu'on ne retrouve pas de cette façon-là dans les pensées orientales. Et par exemple, ses yeux ne se sont... Mais simplement, ça élimine les croyances très largement. Ça élimine, par exemple, c'est un des grands malentendus de l'Occident par rapport aux pensées orientales. C'est-à-dire que, par exemple, bon, je vais mettre les pieds dans le plat parce que c'est incorrect de dire ça. Mais vous avez un cliché qui consiste à dire, vous l'avez souvent entendu, les Arabes c'est des menteurs. Vous l'avez entendu, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu ça. Et c'est une expression d'un racisme clair anti-arabe, mais qui est fondée sur un malentendu réel. C'est-à-dire que dans la pensée, dans les pensées orientales, le postulat que j'ai évoqué, ceci est vrai, ceci est faux, n'existe pas. Et du coup, le rapport au faux, au vrai, et donc au mensonge, si on veut bien, ne se joue pas du tout de la même façon. Pas du tout de la même façon. Et il faut comprendre que ça, c'est une caractéristique majeure de notre façon de penser occidentaux. Mais chez les Japonais, les négociations avec les Japonais, c'est très compliqué. Le malentendu avec Carlos Ghosn, Et les dirigeants de Nissan, je prétends que l'origine du problème vient de là. Et que Ghosn dit « j'ai été trahi par les dirigeants de Nissan, c'est des menteurs qu'on magouillé » et réciproquement les dirigeants de Nissan ne comprennent pas Ghosn, je pense que le fondement touche à ça, touche à cette question-là. La question de la vérité, l'exigence de vérité est... Dans la tradition de pensée occidentale depuis les Grecs, c'est un élément majeur de la pensée métaphysique, quelle qu'elle soit. Hein, c'est très présent. Et c'est là qu'on voit que, y compris par son hegelianisme, Marx, qui était pourtant un matérialiste, qui récusait au nom du matérialiste de sa pensée la métaphysique, comme sphère d'idée, Marx reste à l'intérieur de la métaphysique, au sens où Marx reste attaché à l'exigence de vérité. Marx. Après, ça va être transformé par la stratégie marxiste-léniniste. Mais Marx, en tant que tel, reste à l'intérieur d'une métaphysique de la vérité. Et la pravda, ça veut dire la vérité, t'as raison de le rappeler. Eh oui, 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 t'as raison de le rappeler. Donc, voilà. Donc, poursuivons rapidement sur sa biographie quand même, pour que vous ayez une... Ah non, on ne parle pas pour le moment du bien et du mal. Alors, pour le... Oui, oui, il y a un rapport... Oui, oui, mais il y a un rapport entre vrai et faux et bien et mal, mais si tu permets, pour le moment, on le laisse tomber. Et parce que je suis d'accord que c'est un nœud chez Nietzsche et que je pense que là, il y a une contradiction indépassable chez Nietzsche, pour le coup. Mais bon, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, ça va ensemble. Mais Nietzsche le sépare. Ben on y reviendra. Donc, il se sent pas bien à la fac à Bonn. Par contre, il est très soutenu et très attaché. Il y a une amitié avec ce prof, donc Richle. qui est nommé à l'université de Leipzig. C'était de Leipzig. Et donc, Nietzsche va à Leipzig. Il y sera entre 65 et 69, étudiant à Leipzig. Voilà. Et c'est là qu'il s'intéresse particulièrement à des penseurs latins, grâce à Richelieu, qui est un latiniste, Diogène Laërce, mais aussi qu'il va découvrir et s'intéresser profondément à ce philosophe antérieur qui est Schopenhauer. Voilà. Qui va être pour lui important, mais en même temps il va s'en éloigner. Mais il s'intéresse aussi aux penseurs rationalistes grecs, aux pré-socratiques beaucoup, à Démocrite par exemple, je cite des noms comme ça pour vous familiariser avec certains noms. Il découvre et il va être passionné. Hein. Rappelez-vous ce que j'ai dit, Nietzsche très tôt va jouer du piano et va devenir un musicien. Il aura composé des pièces pour piano qui sont audibles aujourd'hui, il y a des enregistrements. Et donc il s'intéresse et s'enthousiasme à la musique de Wagner, mais la relation avec Wagner est très intéressante et à mon avis elle montre tout ce qui est compliqué chez Nietzsche et en même temps tout ce qui est clair chez Nietzsche et notamment dans sa rupture avec Wagner. Mais on va y revenir après. Donc ensuite, de 69, c'est des grandes périodes, à 79, là c'est 10 années, donc il quitte l'université et il devient prof de philologie. Il gagne sa vie réellement pour la première fois à 24, oui, à Bâle. Il est Bâle, qui est une grande université, donc Bâle, c'est en Suisse, à la frontière, mais c'est germanophone, hein, Bâle, je vous rappelle. Donc il est prof de philologie à Bâle, voilà. Et c'est là qu'il approfondit sa réflexion sur la pensée grecque. Sa réflexion critique sur Platon et Socrate, et en même temps sa réflexion sur les pré-socratiques, comme on appelle ces philosophes antérieurs à Socrate. Donc les plus anciens, on les avait abordés, donc en particulier Démocrite, Parménide, Héraclite. Et en particulier, la pensée d'Héraclite l'intéresse beaucoup. Vous savez, très rapidement, on oppose... C'est un peu simplificateur, mais c'est très juste. Parménide à Héraclite, qui sont deux penseurs pré-socratiques qu'on connaît mal parce qu'on ne connaît que des fragments. Hein. Le poème de Parménide a été, par les philologues, à peu près reconstitué, mais on est réduit quand même à des hypothèses. Et notamment, il y a un grand... Il vient de mourir. Un grand bonhomme que j'aimais beaucoup, qui a fait une traduction en reconstituant quasiment tout le poème de Parménide, qui est Jean Bollack, tout simplement. Un savant et philosophe remarquable qui est mort là récemment. Il s'intéresse aussi, Nietzsche, à Empédocle. Alors si, Parménide va beaucoup inspirer Platon au sens où il postule la permanence de l'être. Il est dans l'idée de permanence. Le monde obéit à une loi de la permanence. L'être est stable. Alors qu'Héraclite, on peut résumer, tout le monde connaît cette formule, même si on ne se souvient pas que c'est de lui, on ne se baigne jamais dans la même eau du fleuve. C'est-à-dire qu'en apparence, le fleuve est toujours le même, mais en réalité, c'est jamais la même eau, vu qu'il y a un flux permanent. Et donc, c'est la métaphore centrale de la pensée d'Héraclite. Le monde est un flux permanent. Aujourd'hui, on est plus du côté d'Héraclite que de Parménide, et j'en veux pour preuve, aujourd'hui, le recours, c'est devenu un cliché, un mot-valise qui m'égasse terriblement. Aujourd'hui, le mot énergie. Tout le monde parle d'énergie. Pour qualifier quelque chose qui est bien ou quelqu'un qui est bien, c'est de l'énergie. Il y a de l'énergie, il y a une belle... En plus, elle est belle, l'énergie. Ce qui est ridicule, c'est ridicule. La belle énergie, ça veut strictement rien dire, mais c'est dire comment, bon, c'est dire comment notre monde n'est plus très platonicien aujourd'hui, il est beaucoup plus, et donc parménidien. Vous savez que Platon a écrit le Parménide, hein, qui est quand même son texte le plus métaphysique qui a inspiré tous les philosophes néoplatoniciens après Platon. Tous les philosophes néoplatoniciens, de Plotard, Proclus, en passant par Jamblique, en passant par le dernier grand qui est Damasius, donc ça va du 1er siècle de notre ère au 5e siècle, donc toute la période, y compris dans la période où l'Empire romain devient chrétien et où les penseurs grecs qui restent attachés à Platon et Aristote sont persécutés. Ce qui fait qu'à Damasus, est obligé de foutre le camp de l'Empire romain pour repartir à où il est originaire, d'où son nom Damasus. C'est un Syrien au départ, Damas, Damasus, le gars de Damas, c'est ça que ça veut dire, Damasus. Damasus en latin ou Damasios en grec, voilà, c'est tout bête, hein, le latin et le grec. De ce point de vue-là. Donc, c'est dire comment, à travers ce succès de cette expression énergie, belle énergie, comment notre monde n'est plus trop platonicien et donc parménidien, est devenu héraclitéen et via Nietzsche, en fait. Et Nietzsche, voilà. Donc la belle énergie, c'est Nietzsche. Alors il n'utilise pas ce terme, mais il a plein d'expressions qui sont proches de cette figure-là. Alors la grande santé, par exemple, ça a à voir avec ça. Nietzsche utilise souvent l'expression la grande santé, et que Nietzsche est très lié à Wagner dans la période baloise aussi. Je cite ce nom pas pour le commenter plus parce que ça très, mais il y a une grande figure de l'intellectualité qui est un théologien qui est Jacob Burckhardt qui va beaucoup compter pour Nietzsche dans cette période là alors Burckhardt c'est un protestant, lui, par contre, mais solide amitié avec lui. Un détail, alors, par rapport à la politique, malgré tout, et l'ambiguïté de Nietzsche, les ambivalences. J'ai dit qu'il rejetait à la fois l'idée de la révolution en tant qu'étudiant, et en même temps, il se détourne pas totalement des idéaux du nationalisme allemand de l'époque. Les idéaux du nationalisme allemand du temps de Nietzsche sont progressistes. Ils sont progressistes pour prendre des catégories qui ne veulent plus rien dire aujourd'hui, mais tout le monde comprend que ça veut rien dire, mais tout le monde comprend. C'est ça les paradoxes. Macron est progressiste, le Parti communiste est progressiste, Mélenchon est progressiste. Le progressiste, voilà, bon, bref. Ils ont tous la belle énergie. Ouais. Mais à l'époque, les nationalistes allemands sont au fond anti-monarchistes, quoi, d'une certaine manière, quoi. Et ils sont pour l'unité allemande, donc anti-monarchistes, anti-poussiens. Mais néanmoins, Nietzsche va s'engager dans la guerre de 70 comme infirmier volontaire. Il n'était pas obligé de le faire. C'est une anecdote qui est quand même intéressante et qui montre ses oscillations, ses engagements volontaires. C'est pas parce que... Voilà. Mais en même temps, cette expérience va assez vite le détourner de tout horizon nationaliste politique, quoi. Assez vite, il est écœuré de cela. Et en particulier, il est inquiet des conséquences de la victoire prussienne. Alors, il n'est pas du tout, il fera des critiques de cela même, mais qui sont un peu anecdotiques. Pour la Commune de Paris, par exemple, hein. Il est violemment contre les communards, qu'il ne comprend pas. Mais par contre, donc vous savez, la guerre franco-prussienne, victoire des Prussiens, hein. Voilà, 70-71, voilà. Et il va finir par avoir des doutes sur l'intérêt et la pertinence et la positivité de cette victoire des Prussiens, quoi. Voilà. Bon, je passe sur beaucoup d'éléments. Oui, mais ça, c'est pas propre à Nietzsche. Tous les courants progressistes allemands, français se disent européens, quoi. Goethe se dit européen, par exemple, la grande figure. Oui, tous les milieux intellectuels germaniques, français se disent. C'est pas propre à Nietzsche, quoi. C'est mal voyagé. Alors, il a les premiers symptômes, quand même, il tombe malade. Sa maladie, qui est un peu similaire à son père, semble-t-il, il commence à avoir des périodes de migraines qui le clouent au lit, des troubles de la vision très importants, etc. Bon, il quitte l'université, il abandonne son poste de professorat à Bâle. Il avait plus que deux élèves, hein, c'est simple. Il n'était pas du tout suivi par les étudiants, il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui fascinait les foules, comme certains profs, grands profs, ont pu fasciner avec des amphis pleins. C'est pas le cas de Nietzsche. Voilà. Et il abandonne, et il va avoir commencé à une vie qui va durer jusqu'à la fin, quasiment, jusqu'au moment où il est cloué au lit, jusqu'aux dernières années de sa vie. Une vie très vagabonde, hein, où il va changer constamment d'endroit, donc j'entre pas dans les détails, entre la France, il s'installera à Nice à un moment donné. La Suisse, il va aller, il faudrait en parler longuement, à Sils Maria, qui est l'Engadine, qui est ce petit paradis extraordinaire où il faut vraiment aller, où il a vécu à 4 reprises. Et donc sa maison, qui est une maison assez modeste au bord du lac, à Sils Maria, qui est une très belle maison, mais de taille relativement modeste, et est aujourd'hui, comme les maisons d'écrivains, un musée. Et c'est un lieu très intéressant à visiter. Il y a régulièrement d'ailleurs des expos d'artistes contemporains. Et aussi tout le rapport d'intellectuels, écrivains, artistes ou philosophes français, notamment à Nietzsche, avec des lettres qui sont montrées. Et alors il y a une moustache de Nietzsche extraordinaire. Il y a sa chambre qui est maintenue avec un grand canapé. Et sur le canapé, a été fait un moulage en plâtre blanc de sa moustache, mais qui est une reproduction fidèle de la moustache, mais qui fait 2 mètres de long et qui est posée sur le canapé. C'est très drôle de voir ça, quoi. Parce que vraiment, c'est là qu'on voit que c'est une caractéristique de Nietzsche, hein. Comme la moustache d'Hitler, excuse-moi, c'est pas une comparaison que je veux faire, mais... Regardez Chaplin, pour figurer Hitler, c'est la moustache. C'est la mèche aussi. Mais la moustache de Nietzsche, c'est vrai que ça caractérise comme rarement des personnes. Nietzsche. Oui, oui. Alors, non, il a peu d'argent parce que quand il quitte l'université, donc il vit beaucoup de dons. L'important, c'est que c'est à partir de 75, oui. Au-delà des anecdotes, c'est important de situer ça quand même, parce que ça rétablit un certain nombre de choses par rapport à l'héritage de Nietzsche, le faux héritage douteux. C'est à partir de 75, donc assez tôt quand même au fond, que Nietzsche se détache de Wagner et des cercles wagnériens jusqu'à rompre complètement avec Wagner. Et en faire des critiques qu'on trouve dans des textes, dans des lettres, des critiques radicales de Wagner. Au plan de l'homme, au plan de sa pensée et au plan musical, par voie de conséquence. C'est-à-dire que, alors, sans entrer dans toutes les anecdotes, essayons de comprendre rapidement ce qui fait sens par rapport à ça. Wagner, il se trouve que il draine autour de lui, autour de Bayreuth, etc., un milieu très important, ce qu'on appelle les cercles wagnériens. Ces cercles wagnériens, c'est une effervescence très forte, et ces cercles vont avoir subir l'influence extrêmement importante de la femme de Wagner, qui est Cosima Wagner. Et c'est des cercles qui vont devenir des antisémites virulents. Cosima Wagner était une antisémite virulente. C'est la passerelle entre la musique de Wagner et le nazisme, en clair. Mais c'est une passerelle aussi parce que la musique de Wagner, ses opéras en particulier, se prêtait parfaitement à la mythologie nazie. Je veux dire, les grands mythes germains, des teutons. Oui, mais au 19e, c'est ça. Au 19e et au 20e, ça devient ça. Ça devient la même chose. Mais c'est pas étonnant que Woody Allen dise ça, parce qu'il faut pas s'oublier. Il faut se rappeler que Woody Allen, en plus, est juif. Donc un juif ne peut pas aimer. Mais bien sûr, il y a eu des juifs nazis, bien sûr, ça existait. Mais c'est pas le problème. La question, c'est pas que des individus aient aimé, c'est que la pensée est antinomique. Mais bref. Alors, c'est compliqué. C'est que Wagner, il y a plusieurs niveaux dans la rupture entre Wagner et Nietzsche qu'il faut expliquer parce qu'ils sont éclairants. Un premier niveau est relationnel et psychologique. C'est que Nietzsche, en gros, a toujours mendié, parce que c'est en ces termes, l'amitié forte de Wagner. Et Wagner a toujours été méprisant, comme il savait l'être. Wagner, c'est un seigneur qui cultivait le mépris par rapport à autrui. Et Wagner a toujours été méprisant par rapport à Nietzsche, clairement. Ça, c'est un premier niveau. Et même, on a retrouvé dans des textes, des lettres, des correspondances, le fait que Wagner a répandu la rumeur selon quoi Nietzsche était pédophile. Qu'il avait des mauvais penchants. Des penchants contre nature. Ça, c'est des expressions wagnériennes par rapport à Nietzsche. Un niveau de pensée, de réalité, pardon, et un autre niveau est vraiment au niveau de la pensée, de l'idéologie, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu dire, Nietzsche n'est pas du tout antisémite. Au contraire, il a plutôt, même s'il a écrit des textes ambigus sur le judaïsme, Nietzsche est plutôt philosémite, on dirait, plutôt. Et d'ailleurs, il accepte, et parmi ceux qui vont l'aider à vivre, il y a un étudiant juif richissime qui va lui donner régulièrement une allocation. Que Nietzsche accepte, il trouve pas que c'est de l'argent sale, enfin, parce qu'il n'avait aucun préjugé contre cet étudiant qui était juif. Mais par contre, Nietzsche découvre peu à peu, à travers notamment Cosima Wagner, que les milieux wagnériens sont de plus en plus virulents dans l'antisémitisme, et ça, il ne supporte pas ça, et il va s'en éloigner de plus en plus, quoi. Ça, c'est un point extrêmement important à retenir. Nietzsche aura une amitié aussi avec quelqu'un qui est très important, c'est Paul Ray, R-E-E. Paul Ray, c'est un philosophe d'origine juive, et ça va être un très proche, lui, vraiment un très proche dans une véritable amitié avec Nietzsche. Voilà. Et le fait, là encore, que Ray soit juif ne pose aucun problème. Alors, il y a eu pourtant une tension entre eux parce qu'ils sont amoureux, les deux, fortement, de la même femme, qui est la fameuse Lou Andrea Salomé, qui est une figure, qui est une jeune femme, qui est jeune à l'époque, mais qui est rayonnante, etc., qui a une belle énergie. Alors, c'est intellectuel. Il y a un terme qui est parfois galvaudé, mais qui est très juste, c'est une égérie très forte pour Nietzsche, et aussi Paul Ray, quoi. Au-delà des sentiments amoureux, les deux sont inspirés dans leur œuvre intellectuelle par Lou Andrea Salomé. Et Lou Andrea Salomé va accepter qu'ils vivent ensemble, les trois, d'ailleurs. Il y a une période, bon, je rentre pas dans les détails, où ils vivent ensemble, mais ça sera asexuel. Et c'est la condition. Pour elle, ça doit pas se situer sur le plan de la sexualité. D'un point de vue-là, on pourrait dire qu'elle est très socratique. Pensez au banquet de Platon et à la scène avec Alcibiade. Il y a une asexualité qui est forte et qui est revendiquée par Socrate, justement. Et alors, je dirais que c'est de la provocation, effectivement, que certaines mouvances contemporaines complètement anachroniques aiment à mettre en avant. Il y a une photo, ils se prennent en photo, il y a une photo, où ils se font tirer par Lou André à Salomé. Donc voilà, les deux mecs qui se font tirer par... Bon, bref, par-delà cela, ce qui est important de situer, c'est que, voilà, Lou André à Salomé aura une grande influence. Elle aura une grande influence aussi sur d'autres grandes figures. Je pense à Freud, mais je pense aussi à Rilke. À la limite, avec Rilke, c'est vraiment aussi une égérie de Rilke, qui est ce poète de langue allemande qui est suisse. Lou Andrea Salomé, S-A-L-O-M. Alors, elle va finir par se marier avec dont le nom m'échappe, qui est Andreas, mais elle va se marier tardivement, c'est-à-dire que c'est après leur vie à trois, hein, c'est tardif. Elle va finir par se marier avec ce gars qui est amoureux d'elle, il me semble que c'est un philologue, si je me souviens bien, aussi. En tout cas, c'est un savant. Et ils vont se marier. Et là aussi, le pacte qu'elle a passé, c'est que cette union ne devait pas être consommée. Voilà. En fait, elle s'est mariée pour avoir la paix. Voilà. Je pense que la sexualité ne l'intéressait pas du tout. Mais par contre, elle était sollicitée et de se marier lui a permis d'être tranquille, quoi. Bon, elle avait de l'estime et de l'amitié pour cet Andreas, c'est pas le problème, mais voilà, bon. Je vois l'heure qui tourne. Restons aux anecdotes qui peuvent avoir une importance. Ça, c'est autre chose. J'ai parlé de la maladie de Nietzsche. D'un point de vue physiologique, maladie mentale, cérébrale, sur lequel on peut revenir après, parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Il y a des hypothèses qui sont beaucoup plus probables que d'autres, beaucoup plus quasi certaines que d'autres. Mais je vais y revenir après. Mais parallèlement à ça, ce qui est clair, c'est que Nietzsche est, comme on appellerait aujourd'hui, un bipolaire. Et un bipolaire profond. C'est-à-dire qu'il passe de phases d'exaltation des phases de dépression profonde. Et il est constamment d'une phase à l'autre, quoi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les bipolaires, quoi, au sens strict. On appelait avant maniaco-dépressif. Psychose maniaco-dépressif et qu'on appelle maintenant bipolaire, voilà. Ça correspondait tout à fait à ça. Alors, on va pas rentrer dans le débat, sachez que c'est un débat qui existe. Est-ce que sa bipolarité, c'est le côté mental ou psychiatrique de sa maladie, est un effet, un symptôme de raison physiologique ou pas? Je laisse tomber ça, qui après tout n'est pas d'une importance et centrale. Nietzsche va s'intéresser donc dans ses années d'errance entre Sils Maria, j'ai aussi oublié l'Italie, Nice, l'Italie, il va découvrir et s'intéresser à Spinoza. Je tiens à préciser ça parce que c'est important. C'est important parce que il y a une ligne, une filiation qu'on peut voir et qui est très claire aujourd'hui entre Spinoza, Nietzsche, Deleuze et la Vulgate contemporaine qui aujourd'hui est complètement spinozienne. Notre monde contemporain est spinozien aussi. Et ça, c'est un héritage de Nietzsche. C'est via Nietzsche que notre monde est spinozien aujourd'hui. Vous savez qu'il y a même un courant d'économistes français aujourd'hui qui se revendique de Spinoza pour penser leur économie politique, par exemple. Vous savez que c'est dans un de ces voyages, donc de cette période après 79 jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'activité intellectuelle, c'est en gros 10 ans avant sa mort, hein, jusqu'en 89, quoi. Parce qu'entre 90 et 1900, il n'existe plus, quoi. Et c'est là que sa sœur va reprendre la main sur lui, quoi. Il se rapproche de sa sœur qui va le veiller avec beaucoup de dévouement et de générosité, hein, faut reconnaître ça. Hein. Donc c'est dans ces années d'errance, mais aussi d'activité intellectuelle très importante, où il retourne régulièrement à Sils Maria, où il va avoir ce qu'il appelle une révélation sur l'éternel retour, c'est-à-dire ce rapport au temps qui est assez compliqué à comprendre, que le temps est dans un mouvement circulaire. Ce qu'est le temps antique, ce qu'est le temps des Grecs, hein, il réinvente, c'est-à-dire que l'avenir n'est jamais que la répétition de ce qui est, a déjà été. C'est en sens-là qu'au sens strict, même si le mot aujourd'hui ne signifie plus rien, Nietzsche n'est pas progressiste. Dans ce sens-là aussi. Non, parce que... Non, il faut être clair. Il n'y a pas d'influence de la pensée juive chez Nietzsche. Et Nietzsche n'a pas étudié véritablement l'hébreu et la pensée juive, le judaïsme, parce que pour lui, c'est ce qu'on appelle, ce qui est aussi une vulgate contemporaine, le judéo-christianisme. Pour lui, c'est pareil, quoi. Donc le judaïsme, c'est ce qui est avant et qui fonde le christianisme. Vous savez que le judéo-christianisme, au sens strict de la philosophie, de la théologie et de l'histoire des idées, ça ne veut rien dire. C'est une invention moderne qui ne correspond pas à une réalité, sauf une période très précise. Sans arrêt, il faudrait faire des digressions, c'est ça qui est terrible. Il n'y a qu'une période et qu'un courant de pensée qu'on peut appeler au sens strict le judéo-christianisme. C'est l'église de Jérusalem au premier siècle de notre ère qui s'oppose à l'église paulinienne. C'est-à-dire l'église, ce qui va dominer le christianisme au premier siècle, c'est l'église de Rome. Avant que l'empereur romain devienne chrétien. Au premier siècle, vous avez l'église de Rome. C'est Paul, l'œuvre de Paul, de l'apôtre Paul. Voilà. Et Paul est le fondement, qui a été très, très bien analysé par un Alain Badiou, par exemple, de la pensée chrétienne de l'universel. Ça, c'est ce qui va s'avérer le courant dominant et définitif de l'Église, enfin de l'Église, c'est-à-dire de christianisme. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à côté de ça, et à travers la figure de Pierre qui avait été pourtant désigné par Jésus comme le premier d'entre eux et celui qui allait fonder l'Église. Et en fait, le paradoxe, c'est que l'Église n'est pas du côté de Pierre. Il n'y a pas de qualificatif, autant on dit paulinien pour désir nier l'église du côté de Paul, autant on ne peut pas dire qu'il y a une église pétrolienne. blague à part, donc au premier siècle de notre ère, il y a Pierre qui reste à Jérusalem et qui fonde les deux. Il y a, du point de vue de la pensée, c'est Pierre. Les homélies clémentines viennent de Pierre, etc. Ce qu'on pense aujourd'hui, tout ce qui est considéré aujourd'hui comme apocryphe, en clair. Et donc, cette église de Jérusalem tente véritablement une synthèse. Alors, on dirait aujourd'hui un syncrétisme entre le judaïsme, la pensée grecque et la pensée de Paul. Donc, c'est ça qu'on peut nommer, en toute rigueur, comme un judéo-christianisme. Mais ça ne va pas l'emporter, et ça aura une courte vie dans la durée de l'histoire, quoi. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais c'est en même temps des parenthèses qui sont importantes, même si à chaque fois ça nous fait des détours. Alors, pour Pierre, clairement, c'est-à-dire, bon, déjà il faut, pour préciser, je suis entièrement d'accord, mais pour préciser les choses, mais alors rapidement, hein, parce que je crains qu'on n'ait toujours pas fini, qu'on n'ait pas le temps d'aborder les textes aujourd'hui, bon, peu importe. Il faut se rappeler que Église vient de sa donnée ecclésiastique, d'accord ? Ça vient de ce mot grec essentiel dans la vie grecque, la cité grecque, la polis grecque, c'est ecclésia. Et ecclésia, c'est une AG, c'est une assemblée générale. Voilà. C'est pas une institution, c'est même, d'une certaine manière, quelque chose qui est dans le flux, le mouvement, la vie réactualisée. c'est de l'incitement, pour reprendre des termes contemporains, des philosophes, y compris des philosophes deleuziens, etc. C'est l'incitement contre l'institué, l'ecclésia. C'est l'idée que les Grecs pensent profondément que la cité, la polis athénienne, ne pourra tenir vive que si elle est constamment renouvelée par cette assemblée instituante des citoyens. Et ça, c'est autre chose que la tendance à créer des institutions. Alors, les Grecs ne vont pas échapper à ça, et c'est le problème anthropologique permanent que les anthropologues ont abordé. Je pense à Pierre Classe par rapport à son livre qui est magnifique, La société contre l'État, quand il observe les tribus indiennes. Voilà. Il y a toujours la tendance à ce que l'instituant soit recouvert par l'institué et devienne l'État. Et c'est ce qui s'est passé pour l'Église. Mais l'Église de Jérusalem ne va pas se développer comme institution du point de vue de l'histoire. Par contre, l'Église romaine, évidemment, très vite devient une institution. Mais c'est antérieur même, parce que l'empereur romain ne devient chrétien que dans un second temps. C'est-à-dire que l'Église instaure le système du pape et des évêques avant que l'Empire romain devienne chrétien. Ah, c'est antérieur. Alors après, ça va s'accentuer. Oui, mais qu'on appelle ça patriarche ou pas, c'est le début de l'institutionnalisation. Néanmoins, l'Église de l'Empire romain devient véritablement chrétien avec Constantin. C'est comme toujours, l'histoire de ce point de vue-là, elle se répète, elle est un mouvement circulaire d'ailleurs. À un moment donné, il faut une idéologie, c'est une idéologie, qui soit suffisamment forte pour ressouder, pour retrouver de l'unité. On retrouve ça en permanence dans l'histoire. Et le problème, c'est quand la religion devient idéologie, c'est bien ça le problème. Qu'on soit pour ou contre telle ou telle religion, il y a une loi historique qui est claire, que la religion devient idéologie, elle se transforme, elle change profondément de nature. Juste pour terminer d'un mot cela, je disais hâtivement, parce que c'est vrai, que l'Église de Jérusalem, avec Pierre et un texte fondamental, qui sont les homélies clémentines, qui est un texte extraordinaire, qui est disponible en traduction française d'ailleurs, qui incarne le judéo-christianisme. Je disais donc hâtivement qu'elle n'a pas eu de suite. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est après des chamboulements, des transformations. Un certain christianisme oriental, et je ne parle pas de l'orthodoxie, un certain christianisme oriental qui subsiste aujourd'hui à travers des petites communautés, on peut voir une filiation lointaine avec l'Église de Jérusalem, et je pense à ces courants de pensée qui sont des courants totalement méconnus, et qu'un grand philosophe et ami avait entrepris d'étudier, c'était Guy Lardreau, et il est mort hélas avant, c'est le christianisme syriaque et le christianisme copte. Guy Lardreau avait entrepris d'apprendre le syriaque et d'apprendre le copte, et il avait des projets considérables là-dessous, mais c'est pour dire qu'il y a encore des survivances. Voilà, tout cela est très subtil, très très compliqué. Mais le temps linéaire est le temps du christianisme romain. Alors, dans le judaïsme, à mes yeux, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un temps, je dirais, en spirale. C'est pas une roue. Parce que, tout simplement, dans l'hébreu, contrairement à la pensée occidentale moderne inspirée par le christianisme romain, qui est la pensée du progrès, le temps, c'est la flèche orientée, d'accord ? C'est une ligne droite qui est d'ailleurs séquentiable arithmétiquement. On avance. Et ce qui a été hier, on s'en éloigne toujours plus. D'accord ? C'est notre temps dominant qui est en crise aujourd'hui. Et il est en crise notamment à travers le problème que pose l'accélération du temps qui... Bon, bref. Le temps hébreu n'est pas celui de la ligne droite orientée. Le temps hébreu est celui d'une spirale en cycle, mais c'est pas un cercle. Parce que une spirale se déplace selon un axe. Donc, le premier cycle n'est pas la répétition identique du mouvement précédent. Ça avance selon un axe. C'est le temps de la spirale, l'hébreu, profondément. Et on retrouve dans l'hébreu autre chose que le temps circulaire sur un point précis, c'est que pour les hébreux, le progrès n'existe pas. La notion de progrès n'existe pas. Et pour les hébreux, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité qui est contenu dans l'origine, très profondément. C'est-à-dire que l'origine de toute chose est contenue... La vérité de toute chose est contenue dans l'origine. Et donc ça, c'est contraire à la représentation du temps selon la flèche. Il faudra en parler longtemps, mais c'est un point auquel je tiens beaucoup, parce que pour moi, c'est toute la différence. Nietzsche n'est pas loin de ce que dira très clairement Heidegger par la suite. La langue allemande, c'est le grec du temps présent. Et ça, c'est une croyance très profonde. Alors que Heidegger formule complètement en ces termes-là. Hein. Mais chez Nietzsche, c'est présent ça. Nietzsche pense que sa pensée permet de revenir à ce qu'était le fondement de la pensée occidentale avant la corruption de la métaphysique platonicienne et du christianisme, c'est-à-dire la pensée telle qu'elle était primitive et telle qu'on la retrouve chez les pré-socratiques. Tragédie, oui. Et mythe, d'autant plus. Voilà, donc, dans la période, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Alors, il reste attaché à la musique, et si j'ose dire les choses en ces termes-là, il va troquer... Wagner qu'on disait. Et très curieusement, il a une fascination pour Carmen, qui pour lui est un opéra qui dépasse Wagner. Là, je vous avoue, on est toujours obligé de se positionner d'où on parle. Hein. Je préfère infiniment. Là, je suis très proche de Nietzsche. Je préfère mille fois Carmen à Wagner, aux opéras de Wagner. Ça me paraît évident, quoi. Nietzsche un peu s'enfonce à nouveau dans la dépression dans la seconde partie des années 80. Sa sœur donc se fiance et se marie avec Bernard Forster, F-O-R-S-T-E-R, qui est un admirateur de Nietzsche, qui se marie, et semble-t-il, c'est pas sans rapport avec son admiration pour Nietzsche, avec la sœur de Nietzsche, et la sœur de Nietzsche est Elisabeth. Or, il se trouve que Forster, c'est un antisémite militant, ontologique, je dirais. Son être profond est antisémite, et donc il va rejoindre très vite le nazisme et entraîner sa sœur dans le nazisme, quoi. Bon, je passe sur tout ça. Nietzsche, ça va l'amener, et c'est en ce sens-là que Nietzsche est très clair. Par rapport au rapport au nazisme de Nietzsche, c'est très clair. Nietzsche va rompre avec sa sœur parce que il ne supporte pas son mariage avec l'antisémite Forster. Il ne supporte pas. Et on retrouve une lettre qui est de Nietzsche. J'ai extrait cette citation. Ce maudit antisémitisme est la cause d'une rupture radicale entre ma sœur et moi. On ne peut pas être plus clair. Ce maudit antisémitisme est la cause d'une rupture radicale entre ma sœur et moi. C'est une lettre de 1884. Il y a une rupture. Là, on est en 84, il y a une rupture, d'accord ? Qui va durer jusqu'en 90. Terminons sur les 10 dernières années de... C'est un point important quand même au passage, dans les lectures de Nietzsche, comme ça je vous lance des trucs, il admirera ce romancier français qui est Stendhal. Stendhal qui était un fervent admirateur de Napoléon. Entre parenthèses. Tout ceci est lié. Alors, la rupture, l'effondrement de Nietzsche, qui précède sa neutralisation pendant les 10 dernières années, elle est marquée par un épisode célèbre et tragique. Nietzsche se retrouve à Berlin, Turin, en 89, et cette scène qui est archi célèbre et qui fait l'objet d'un très bon livre que je vous recommande, qui s'appelle Nietzsche à Turin, mais je suis pas sûr du titre. C'est un roman graphique de cet écrivain suisse qui est vraiment remarquable. C'est des gros livres comme ça avec un graphisme, un dessin extraordinaire. Et il s'appelle, au moment où je veux dire son nom, il m'échappe à l'instant. Mais vous retrouvez facilement. C'est un gars qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui, qui fait plein de livres. Il a écrit des romans comme cela, des livres philosophiques, mais qui sont sous forme de romans graphiques où c'est lui qui dessine des dessins qui sont absolument sublimes. Et il a fait ce livre, il a fait un livre sur la mélancolie aussi qui est remarquable. Et donc, il décrit et met en dessin cette... Son nom me reviendra au fur et à mesure où je parle. Cette... tragédie de Nietzsche où à Turin il voit une jument qui est maltraitée par l'homme qui l'a conduit, la fouette, et Nietzsche pique une crise, il se met à pleurer et à se précipiter sur la jument qu'il embrasse de ses bras comme cela. Et là, il se met à délirer complètement. Et il est très agité, donc c'est une scène publique, hein, si vous voulez. Et donc, il y a des amis qui sont au courant, qui le récupèrent. Et il va être rapatrié à Berlin, dans une clinique psychiatrique. D'ailleurs, ses amis, si vous voulez savoir l'anecdote, parce que Nietzsche ne se vivait pas comme un fou, hein, là, à ce moment-là. Ses amis vont jouer d'un subterfuge en disant qu'il faut qu'il aille à toute allure à Berlin parce qu'il est sollicité par les autorités pour recevoir une récompense académique, etc. Et donc, jusqu'au bout, il va croire à la chose. Et donc, dans la clinique, il est accueilli avec les honneurs et il va remercier tout le monde pour l'accueil qu'on lui fait, etc. Et c'est très curieux parce que ça me fait penser à l'épisode de cet architecte qui est Le Corbusier, cet architecte suisse, qui va croire la fable qu'on lui raconte, qu'il est accueilli quand il arrive à New York avec les honneurs et qu'en fait, c'est un subterfuge de son ami. Vous connaissez l'anecdote, elle en dit long sur Le Corbusier, quoi. Le Corbusier rêvait d'être reconnu aux États-Unis. Et les États-Unis ont complètement ignoré Le Corbusier. Il n'y a rien aux États-Unis, autant au Brésil. Et donc, avec un ami, il fait le voyage beau. Et arrivé sur les quais, il voit plein de photographes, de journalistes qui sont les quais à attendre. Et il n'a pas l'ombre d'un doute, c'est pour lui. Mais son ami se rend compte qu'il y a méprise. Dans le navire, il y avait une starlette, une actrice de seconde zone, mais connue. Et tous les photographes et les journalistes étaient pour elle et pas pour lui. Donc son ami compatissant et généreux comprend le problème, comprend ce que va être la déception et l'effondrement, parce que ça relève aussi d'une forme d'effondrement, de Le Corbusier, qui est un sale type. Hein. Et donc son ami va voir un photographe sur le quai, dit voilà, j'ai mon ami là, il connaissait pas du tout qui c'était le photographe, vous me rendriez service en le prenant en photo. Et le gars dit, je suis désolé, je suis d'accord, mais j'ai plus de pellicule. Et son ami Le Corbusier dit, c'est pas grave, faites semblant, prenez des photos, faites semblant. Donc il le mitraille, donc Le Corbusier est tout fier, content. Et le problème, c'est qu'après, il n'aura de cesse de réclamer l'article de presse à son copain. Il n'y a jamais d'article de presse. Bref, c'est une anecdote que je dois, parce qu'il a vraiment creusé, à Daniel de Roulet, cet écrivain suisse qu'on a fait venir l'autre fois et qui a beaucoup bossé, parce que Daniel de Roulet était architecte de formation, il a un fils architecte d'ailleurs, et il s'est beaucoup intéressé au cas de Le Corbusier, et c'est lui qui a révélé l'antisémitisme de Le Corbusier à travers les lettres qu'il a étudiées. Le Corbusier, quand il était à Vichy, dans une suite à côté de l'hôtel du gouvernement Laval, écrivait tous les jours une lettre à sa mère, qui était restée en Suisse, à la Chaux-de-Fonds exactement. Et donc, ces lettres existent, c'est un corpus qui est aux archives qu'on peut retrouver, et il se trouve que Daniel de Roulet a pu y accéder et les lire, et il n'y a pas une seule lettre qui soit pas émaillé d'une injure antisémite, quoi. Non, c'est un sale bonhomme, quoi. Et j'en veux beaucoup à Malraux de lui avoir fait des... Mais on comprend, c'est de la politique. Après, Malraux n'a pas échappé à la politique, hein, d'avoir fait des funérailles nationales à Le Corbusier, qui en plus n'était pas français, était donc suisse de la Chaux-de-Fonds. Bref. Voilà, donc c'est drôle de voir que les amis peuvent utiliser le même subterfuge pour comme facilité pour sauver un ami qui délire, voilà. Donc ça c'est 89, il se retrouve, et à partir de là, donc à partir de 90, Nietzsche ne va pas se relever et va rester donc de 90 à 1900 dans son lit, comme une espèce de légume, et là, sa sœur, dans un mouvement généreux et de dévouement, va s'occuper de lui pendant ces 10 années, quoi. Mais du coup, elle va faire cette entreprise de récupération, donc, des œuvres posthumes. Elle va être en quelque sorte la légataire testamentaire de fait, et donc diriger les éditions de Nietzsche, de son vivant puis posthume. Et c'est elle qui va avoir accès à toutes les archives de Nietzsche, enfin à tout. Elle crée d'ailleurs la fondation des archives de Nietzsche, etc. Et elle va avoir accès à tous les textes publiés et non publiés de Nietzsche. Et en particulier, c'est comme ça que s'explique cette publication posthume qui crée problème aujourd'hui, enfin pas que depuis aujourd'hui, depuis un moment, La volonté de puissance, quoi. Qui est un titre qui n'est pas Nietzsche. Non, mais Nietzsche n'a jamais écrit ce texte en tant que tel. Il a fait des plans. Il a fait des plans de ce livre. Donc, il y a plusieurs plans qu'on a retrouvés, que sa sœur avait en possession. Des plans, mais un plan, c'est un schéma. Et après, pour remplir les cases, elle utilise des fragments, des brouillons, des fragments écrits de la main de Nietzsche qu'elle recompose dans l'ensemble. Voilà. Mais le texte en tant que tel, il n'y a pas de brouillon de Nietzsche. C'est-à-dire que c'est pas comme si elle avait publié un brouillon qu'elle aurait nettoyé simplement. Il n'y a pas de brouillon. Il y a des plans et des textes de Nietzsche. Alors, tout est à peu près de Nietzsche, même s'il y a des articulations qui sont d'elle, hein. Évidemment, quand tu mets bout à bout un puzzle, à un moment donné, il faut articuler les choses. Mais disons que 99% semble de Nietzsche. Il y a les articulations, mais le problème après, c'est la mise en perspective. Les idées, le nazisme est dans l'air à l'époque. Bien avant.
C'est pas Nietzsche qui a dit ça. Mais en même temps, c'était quand même.
Vous savez que c'est cette année, je crois, c'est donc en 1920. Cette année, on fête les 100 ans de la mort de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg, qui sont ces deux figures héroïques, magnifiques, même si on peut ne pas être d'accord. Moi, j'ai beaucoup admiré ces gens-là. Je suis plus forcément d'accord, loin s'en faut, avec leur pensée. Mais ça a été les deux grandes figures courageuses jusqu'à la mort de l'idée pur de la révolution communiste en Allemagne. Ce qu'on a appelé le courant spartakiste, du nom inspiré par Spartacus, qui est le nom de cet esclave romain qui a organisé une révolte des esclaves du temps de l'Empire romain. Voilà. Pourquoi j'évoque ça? Parce que l'assassinat de Limneck et de Luxembourg marque, d'une certaine manière, la défaite de l'idée de révolution communiste ou socialiste, peu importe. Bien avant les défaites officielles. Ça marque la défaite. Et ça marque la défaite parce que va être dominant peu à peu la vague du national-socialisme. Mais le national, Hitler, hein, je vous rappelle, prend le pouvoir en 1933 par les élections, hein, ce qui prouve qu'il y a un mouvement. Et donc, le nazisme, au sens d'un mouvement structuré, est déjà présent dans les années 20, et au moment de la défaite des courants de la révolution, du socialisme révolutionnaire, des spartakistes, quoi. C'est simplement ça que je veux rappeler pour situer que le bain nazi est très présent bien avant 1933, et a fortiori bien avant la guerre, bien avant 1939, bien avant l'Anschluss. Sa sœur, elle qui vit beaucoup plus longtemps que lui, sa sœur, elle, et devient nazie avec son mari, qu'elle elle est, et elle tire Nietzsche à travers la volonté de puissance dans ce sens-là. Mais ça serait un anachronisme d'une part, c'est un décalage temporel de dire que Nietzsche est imprégné du nazisme, et c'est une erreur philosophique de voir du nazisme dans la pensée de Nietzsche. Encore une fois, il rompt avec sa sœur par son antisémitisme à sa sœur. Dans la folie finale de Nietzsche, donc 89, je ne parle pas de sa période de 10 ans, de léthargie complète, hein, dans la période où encore il s'exprime dans le délire, ce qui est important, c'est qu'il s'identifie à ces deux figures qu'il mythifie et sacralise, Dionysos et Jésus, le Christ. Quel il s'identifie? Et on peut montrer assez facilement aussi, avant son délire, que Zarathoustra, d'une certaine manière, qui est d'inspiration d'un côté oriental, Zoroastre, vous connaissez le zoroastrisme, c'est tout ce qui fonde la philosophie persane avant le schisme, et dont le schisme est nourri d'ailleurs. Bref. Alors qu'est-ce qui l'intéresse? Pourquoi il associe aussi bien Dionysos que le Christ? On va y revenir du point de vue de la morale par la suite, mais je voudrais souligner juste un point pour montrer les contradictions de Nietzsche et que c'est compliqué. On a parlé de la Gaia Scienza, etc., de la joie, de la bonne santé, mais en même temps Nietzsche est dans la souffrance. Et c'est un homme souffrant et qui se vit comme un crucifié. Ce qui est pour lui le point commun d'identification à Dionysos et au Christ, c'est la souffrance. Ce sont pour lui deux figures de la souffrance qui sont pareilles à lui-même. Parce que je veux bien qu'on dise que Nietzsche est la bonne santé, il le dit lui-même. Sauf que Nietzsche, ça a été la souffrance une bonne partie de sa vie. Et il s'est vécu comme tel une bonne partie de sa vie. Faut pas minimiser cela. Alors, en même temps, la grandeur de Nietzsche a été de s'identifier à la souffrance, c'est vrai, mais aussi, et au corps souffrant, et aussi de vouloir résister à la souffrance. Et ce qu'il trouve aussi comme principe d'identification au Christ et à Dionysos, c'est que pour lui, c'est des figures de la souffrance, mais de résistance à la souffrance en même temps. Alors, le Christ, c'est clair, vous comprenez pourquoi. Dionysos, alors pourquoi Dionysos? Parce que Dionysos, c'est un dieu. Donc on peut dire les dieux. N'oubliez pas que les dieux grecs sont des dieux qui ne sont pas... Tous les dieux du panthéon grec, ils sont très humanisés. Hein. C'est-à-dire que c'est des dieux qui ne sont pas les premiers principes abstraits qui existent. Au-dessus des dieux du panthéon, il y a les dieux, les premiers principes, les premiers dieux, ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Mais tous les dieux du panthéon ont des figures humaines, ont des sentiments humains, ont des épreuves humaines. Ils sont amoureux, ils se trompent, ils commettent des adultères, ils souffrent, etc. Quoi. Ils se trucident, etc. Donc ça, c'est un premier point. Dans toute la mythologie grecque, dans le panthéon grec tel que Nietzsche le voit, mais c'est pas propre à Nietzsche, hein, il y a une opposition très marquée entre Dionysos et Apollo. Et Apollo, c'est la figure de l'ordre. De l'ordre harmonieuse, c'est la figure de la beauté, c'est la figure du monde organisé, qui est l'arrachement au chaos. D'accord ? Par opposition, Dionysos, c'est la figure qui fout le bordel dans tout ça. Du dérèglement, du chaos, voire de la célébration du chaos. Donc c'est la figure, une forme de figure de résistance à l'harmonie. Mais la figure de résistance à l'harmonie, c'est une figure qui endosse ce qui est disharmonieux, c'est-à-dire la souffrance. Donc c'est aussi une figure de la souffrance. Mais j'en ai terminé, j'ajouterai quand même un mot... Oui, sur le parcours de Nietzsche, après on pourra du coup rentrer vraiment dans les textes et la pensée, le dur. Mais j'ai un peu traîné avec des digressions parce que vous comprenez qu'on ne peut pas comprendre la pensée de Nietzsche tourbillonnante si on n'a pas en tête tout ce que je viens de dire. Il faut avoir, parce que c'est une pensée qui est profondément incarnée dans une existence. Quoi. Et donc si on n'a pas en tête tout cela, on a tout fait de réduire la pensée de Nietzsche à un aspect plutôt qu'un autre, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris du temps là-dessus. Mais pour conclure juste ceci, sur de quoi souffrait Nietzsche. Donc, qu'il ait été maniaco-dépressif ou bipolaire, ça c'est clair. Mais du point de vue physiologique, il y a eu plein d'hypothèses. On ne sait pas au juste. Il y a une première hypothèse qui s'appuie sur des écrits de Nietzsche et que il souffrait de syphilis. Et la syphilis, de fait, peut attaquer le système nerveux central. Alors, qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est qu'à un moment donné, dans une lettre, il dit, où il était encore jeune, il dit pas « j'ai chopé la syphilis », il prononce pas le mot « il faudrait que je retrouve la citation quelque part », peu importe. Il dit... j'ai été atteint, quoi. Il a la conscience que peut-être il a chopé un sale virus, ce qui était très courant à l'époque. Hein. Ça, c'est une première chose. Après, il y a d'autres hypothèses plus précises. Enfin, il y a deux thèses, en fait, plus récentes. On a établi ce que son père souffrirait, il avait une tumeur au cerveau. Et que, par transmission génétique, Nietzsche aurait aussi eu une tumeur au cerveau qui peu à peu l'aurait gagné. Ça, c'est une chose. Après, il y a une autre thèse, c'est la thèse la plus récente. Nietzsche aurait été victime d'une démence liée à un grave problème, ce qu'on appelle une démence, j'y connais rien en médecine, il n'y a pas de médecin dans la salle, une démence vasculaire, c'est-à-dire qu'en gros, il y aurait un dysfonctionnement complet de la circulation sanguine au niveau du cerveau, et comme vous le savez, le cerveau est actif, y compris l'intelligence, grâce au sang. C'est pour cela que... Mais c'est un autre éclairage, la démence vasculaire, et c'est une maladie, une déficience qui n'est pas forcément liée à de la syphilis qu'on peut choper en que telle. C'est quand la circulation, quand le cerveau n'est plus vascularisé. ou mal vascularisé. C'est ce qui explique qu'on meurt. Pourquoi le mauvais vin donne mal à la tête? Pourquoi le mauvais vin donne mal à la tête? C'est que par le sulfite, il provoque une constriction des vaisseaux sanguins. Et le sulfite qui provoque une constriction des vaisseaux sanguins, ce qui fait que la circulation ne se fait plus, et que la circulation ne se faisant plus, et ben forcément, on a mal à la tête.